Le XVIIe siècle est pour nos ancêtres l'avènement d'un nouveau type de société. Monsieur Julien, vous nous avez décrit la nouvelle administration de la cité qui se met en place après le siège de 1622. Vous nous avez décrit les actes importants de la vie des Saint-Antoninois, qui sont la naissance, le mariage et la mort. Aujourd'hui, vous allez mettre en évidence un des faits marquants de cette époque, l'inégalité sociale. Et pour illustrer cette émission, Madame Julien, quelle musique avez-vous choisie?
C'est Jean-Joseph Mouret que nous écouterons aujourd'hui. Son nom est moins célèbre que ceux de Delalande et surtout François Couperin. Il faut dire que les musiciens français de la deuxième moitié du XVIIe siècle ont été souvent étouffés par la tyrannie de Lully. Lully avait la faveur de Louis XIV et il a longtemps imposé à la cour ses goûts et ses choix. De Jean-Joseph Mouret, donc, nous entendrons des extraits d'une suite de symphonies et d'une fanfare. C'est toujours de la musique de cour.
Tous les enfants, avons-nous dit, sont égaux à la naissance, et rien ne distingue un acte de baptême d'un fils de brassier, de celui du fils de noble ou de riche marchand. Ces nouveau-nés resteront égaux encore pendant la toute petite enfance, allaités par la mère ou par une nourrice. Emmaillotés comme des saucissons, ils passeront la plus grande partie de leur temps dans la bressaduro, le berceau, posé à même le sol, qu'une grand-mère ou quelques servantes balancera doucement du pied, tout en filant au fuseau la laine ou le chanvre de sa quenouille. Mais c'est quand il ouvrira les yeux sur le monde et quand il commencera à marcher qu'il aura, peut-être, conscience de l'inégalité sociale et que sa condition sera celle de ses parents. On ne choisit pas ses parents, dit Hamlet. Certes, mais à cette époque-là, bien plus qu'en la nôtre, il était impossible, quasiment, d'échapper à sa condition première. On appartient alors à une catégorie, une classe ou une caste dont on ne pourra s'échapper, quelque mérite, quelque intelligence ou quelque vaillance que l'on ait. Sociale de cette époque est très inégalitaire. Cette inégalité, me semble-t-il, est parfaitement illustrée par la comparaison de ces deux documents de nos archives, deux inventaires dressés après décès par le notaire Philippi. Il était très courant, pour ne pas dire général, d'établir l'inventaire après le décès d'un membre de la famille, père ou mère. Le premier de ces inventaires a été établi chez un brassier et le second chez un riche marchand. Ce brassier, c'est Bonnour, qui habite une petite maison rue de l'Hospitalet, de l'Hospitalet. Vous voyez où c'est les gens qui habitent Saint-Antonin, sinon allez à chercher. Et qui se compose d'une seule pièce, au premier, sur un rez-de-chaussée formant cave. Voilà ce qu'écrit le notaire. Premièrement, à la chambre où le dit feu Bonnour faisait son habitation a été trouvé. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une table de charpente vieille avec un banc. La table de charpente, ça signifie qu'elle a été faite avec des planches et des chevrons cloués, sans assemblage. Un chalit vieux, aussi de charpente. Un chalit, c'est un lit. Entouré d'un vieux linceul d'estoupas, une toile grossière, sans couette, ni coussin, ni couverte, mais seulement une paillasse. Une vieille mée à pétrir le pain. Une caisse de charpente vieille. Une paillasse ronde à tenir le blé. Un chaudron de cuivre avec son anse de fer pesant 6 livres. Une petite poêle, un petit crémail, une anne d'arrière de fer. L'anne d'arrière, c'est le support des poêles dans l'âtre. On l'appelle la servante. Une casse à seau en cuivre. C'est une sorte de louche pour puiser l'eau. Un petit plat d'étain, et ça c'est la fortune. Un lampion, autrement dit un calel vieux. Et un manteau de Cadiz. Voilà tout le mobilier et la vaisselle. Et le vestiaire renfermé dans cette pièce. Et c'est tout. Et étant descendu, dit le notaire, au bas de la dite maison, a été trouvée une vieille cuve, 3 barriques, une pipe. Une pipe, c'est un grand tonneau de 600 litres environ. 5 livres de chanvre, un vieux pourpoint de Cadiz et une mare. Une mare, c'est son outil à lui de ce brassier. C'est une sorte de pioche. Cet inventaire illustre, me semble-t-il, parfaitement les conditions de vie d'un brassier très pauvre qui, sans doute âgé, n'avait même pas fait la vendange cette année-là de sa vigne, puisque les futailles sont vides. De feu Jean Pénavert ou Pénaveil, marchand bourgeois qui vient de mourir. Cette maison est sise sur la place dans le quartier riche et elle comporte plusieurs pièces qu'on appelle à ce moment-là des chambres. Le notaire écrit: nous avions trouvé dans la première chambre qui regarde sur la place un grand chalit de bois de noyer avec son tour de lit de cadis vert à rideaux et sa couverture de même cadis et sa couette et coussin rempli de plumes pesant 50 livres, plus un matelas de laine, une couverte de laine blanche, une paillasse et le fond et le ciel du dit lit sont en bois de noyer tout bon. plus un autre petit chalet de bois de noyer avec son tour vert comme dessus, avec sa couette et son coussin de plume pesant 25 livres, avec une couverte, j'entends couverture, de laine blanche, son fond et son ciel de bois, tout bon. Plus une table ronde en bois de noyer avec un tapis au-dessus, de même caddie vert et une petite frange de laine. Puis 6 chaises de menuiserie dont les 5 sont garnies de tapisserie. Plus un miroir, plus une caisse en bois de noyer contenant les robes et les cottes de la dite Isabeau de Domergue, veuve. On n'en fait pas l'inventaire puisque les meubles appartiennent en propre à l'épouse. Plus une autre grande caisse en bois de noyer, dans laquelle nous avons trouvé quantité de divers papiers, dont l'inventaire, qui sera fait le lendemain, remplira 28 pages. Ce sont essentiellement des effets de commerce, des billets à ordre, des créances et reconnaissances de dettes. C'est un monument. Enfin, toujours dans la même pièce, plus un vieux comptoir avec 4 tiroirs, tout bois de noyer. Vous avez là une idée de l'ameublement de la chambre d'un bourgeois, mesdames. On se fait ainsi aussi une idée de la différence de classe avec le brassier. Poursuivons et entrons dans une autre chambre qui regarde, elle, sur la basse-cour en arrière. On y trouve un lit complet comme ci-dessus, mais son tour et ses rideaux sont en toile avec une frange de filet de broderie. Plus une table à 4 pieds, longue de 10 palmes et large de 3, soit 3 mètres sur 90, avec ses 2 bandes de noyer, plus une crémaillère de fer. Plus une paire de landiers, c'est-à-dire de chenets, avec leurs pommes de laiton, d'environ 2 palmes de hauteur, 60 cm, plus une petite pelle de fer, plus, dans 2 armoires enchâssées dans la muraille, a été trouvé 12 plats d'étain, 12 assiettes, 5 écuelles, une pinte d'un quart, une salière, une aiguillère, un bassin, une olivette, une vinaigrette, 2 grands chandeliers à la mode, un autre bassin ovale, une autre vinaigrette, autre 2 petits chandeliers, le tout en étain, pesant 97 livres. Plus 2 grandes armoires dans lesquelles se trouvaient une cassette contenant un sac de deniers où il y avait 4 livres et 7 piastres d'argent. 20 linceuls, 15 de brin, c'est-à-dire de toile fine, 5 de mescladis, c'est-à-dire de métis. 10 nappes, 4 fines et 6 grossières, 5 douzaines de serviettes, une de fine, 4 un peu grossières, 6 cuillères d'argent. Entendez bien, toute neuve, et 6 chemises du défunt, et toujours dans la même pièce, plus un grand coffre contenant un tour de lit de caddie jaune avec parement de soie jaune et noire, et rideaux de lit de même, et les habits des enfants dont on n'a pas fait l'inventaire. On entre alors dans une troisième chambre servant de cuisine et on trouve 3 lampes de cuivre, une lèche frite de fer, une grille et 2 poêles de fer, une broche de fer, un réchaud de fer, 3 cassettes de cuivre avec leur queue de fer, un petit pot de fer avec son anse, un chaudron, deux bassins, un petit chaudron, trois seaux, appelés encore blachis ou bandelles, le tout en cuivre. Et c'est pas fini. Un grand chaudron de cuivre avec son anse de fer, une casse de cuivre, une mets à pétrir le pain, un chandelier et un bassin en laiton, un poêlon avec sa queue, un chauffe-lit, un pot de chambre d'étain, un matelas de laine. Dans une autre chambre, c'est la quatrième, on trouve 7 quintaux et demi de morue sèche, un monceau, c'est-à-dire un tas de laine, un quintal de chanvre et 2 cannes de cadis blanc. Manifestement, c'est le magasin. On monte alors dans la chambre haute, servant de grenier, et on y trouve un monceau de blé provenant de la dîme de Monteil, 29 setiers, soit 58 sacs, ainsi que 13 setiers de rau, c'est-à-dire de mixture. On y trouve aussi une courte pointe, une paire de pistolets et 2 cannes de toile d'estoupas. Alors tout le monde redescend au bas de la maison, on va à la cave et on y trouve 11 barriques, je dis bien 11 barriques, pleines de bon vin vendu, 16 barriques vides, 2 tonneaux, un nauk de pierre fermé à clé, c'est-à-dire une auge de pierre fermée à clé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On nous ne le dit pas. 2 comportes, 42 planches de peupliers, 2 de noyer et 12 de sapin, et 1 tonne en bois pour tenir le sucre. Vous avez là une petite idée, grâce à la description d'immobilier de cette cave et des produits qu'elle contient, de l'objet du négoce de ce marchand. Morue, blé, vin, bois, sucre. Cette longue, trop longue énumération qui aurait dû être commandée à chaque fois pour que nous puissions mieux sentir la vie de ces gens, donne quand même une idée du bourgeois pénavère, riche marchand, fermier des dîmes de la paroisse de Monteils, qui appartenait au chapitre collégial de Saint-Antonin. Il était aussi greffier de la justice royale de la ville. Il était propriétaire de la métairie de Vézy. Et je crois qu'il existe encore des familles pénavères dans cette région. Enfin, voilà un parfait représentant de la classe privilégiée dont le niveau de vie est sans aucun rapport avec celui du brassier velours. Voilà, à mon sens, les 2 extrêmes de la société saint-antoninoise.
Oui, monsieur Julien. Mais est-ce que le brassier Bonnour et le bourgeois Pénavert sont des exceptions dans leur classe sociale, ou est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de ces classes sociales?
Oui, je pense qu'ils sont quand même des cas limites. Autant le brassier, dans sa misère, dans sa pauvreté exceptionnelle, puisque on voit d'autres inventaires de brassiers qui révèlent quand même, sinon la fortune, de moins une aisance relative. Hein? Chez lui, il n'y a vraiment rien. C'est le dénuement. C'est le plus bas de l'échelle. C'est le pauvre. Certainement, le pauvre dont les enfants sont allés mendier, sûrement. Et puis, il y a le bourgeois, le riche marchand Pénavert, qui vraiment cumule les sources de revenus, on l'a bien vu, et tous les marchands et même tous les bourgeois n'avaient pas ce train de vie. Ça, c'est incontestable. Quoi qu'il en soit, et les classes existent quand même, et ça ne veut pas dire que j'ai exagéré. Mais la division en classes n'est pas comme on l'entend si souvent et comme on nous l'a enseigné, du moins, elle n'est pas ici comme ça. Et vous savez, quand on nous dit qu'il y avait trois classes, noblesse, bourgeoisie, noblesse, clergé et tiers état. Je crois qu'ici, il ne faut pas considérer cette division, mais bien plutôt, au bas de l'échelle, un prolétariat, puis une classe moyenne d'artisans, et puis la classe des privilégiés, vraiment, privilégiés de la fortune surtout, que sont les bourgeois, les marchands et quelques nobles. C'était un peu cette image que pouvait donner la société saint-antoninoise au début du XXe siècle, vers les années 1900, je pense. Au bas de l'échelle, les brassiers, dont la seule fortune au départ est la force de leurs bras, qu'ils louent aux autres pour le travail de la terre, la garde des troupeaux, les emplois de manœuvre chez les artisans, et le service des riches en qualité de domestique ou de servante. Ils vivent au jour le jour. Beaucoup possèdent une modeste maison au Bessarel, ou dans le quartier de l'Escolo Vieglio, ou dans les ruelles étroites des riches quartiers de Foyt et de Roquescalière. Ils ont souvent un jardin et une petite vigne, quelquefois un chènevier. Leurs femmes travaillent aussi dans les champs et assurent pour la grande part la filature au fuseau du chanvre et de la laine. Une mauvaise récolte suffit à les priver de leur gagne-pain et poussera les plus pauvres à grossir le flot des mendiants et des pauvres honteux que seule la charité publique, les dons testamentaires ou les aides de l'hôpital sauveront de la misère totale et de la désespérance. Leurs enfants auront peu de chance de sortir de leurs conditions, et ils seront la proie facile des recruteurs militaires pour les garçons et pour les filles, des appétits sexuels des grands. Au sommet de l'échelle sociale, les privilégiés qui habitent les beaux quartiers du Bioc, de la place de l'Horloge et des rues qui y aboutissent, dans de vastes maisons bien meublées comme celle de Pénavert, qu'ils mettront au goût du jour, ainsi qu'en témoignent certaines maisons de notre ville restaurées ou refaites à cette époque-là, la façade de la maison Léris pour les deuxième et premier étage, où habite à ce moment-là une famille noble, la famille des Grèzes de la Garenne. Il y a aussi la façade sur la cour de la maison actuelle de Monsieur de Lastic. On pourrait citer ici et là, par exemple, l'ancienne maison mûre a une porte d'entrée sur la cour qui date du XVIIe siècle. Nobles ou anoblis, bourgeois, riches marchands, trafiquants et négociants, avocats et hommes de loi, notaires, officiers royaux, maîtres artisans, certains du moins, comme les apothicaires, les orfèvres, les tanneurs et les bouchers, les chirurgiens, les médecins et les apothicaires, appartiennent tous à cette classe où, sauf pour les nobles authentiques, la promotion sociale est de règle. On part marchand, on devient, les enfants deviennent hommes de loi, avocats, procureurs, puis ils auront une charge d'officier public, ils deviendront bourgeois, les enfants, et enfin, on pourra les anoblir. Ils possèdent l'argent, ceux-là, dont ils savent tirer avantage et profit, puisqu'ils prêtent beaucoup, surtout aux petits obereaux ou nobliaux appauvris. C'est trop bizarre.
Thank you.
Ces privilégiés possèdent la richesse fondamentale de cette époque, la terre. Toutes les grandes métairies, Petit-Jean, Lucas, Sourbille, Salette, Florac, Les Amoureuses, Peyrol, Lavaïs, Gautier, Astier, Malleterre, Reynal, Pechdax, Bezdercercy, leur appartiennent. Ils en possèdent aussi dans les communautés voisines de Caylus, de Carandier, de Verfeil, de Fénérol. Et le système d'exploitation de ces métairies est assez curieux. Le propriétaire, qui est toujours un noble ou un bourgeois, ou un riche marchand, donne la métairie à ferme à un avocat, ou un homme de loi, ou un notaire, ou à un marchand, contre un fermage en argent. Ce dernier, appelé fermier, donne l'exploitation de la métairie à demi-fruit à un métayer, suivant cette règle qui dit qu'on partagera à metzeromen à mi-fruit. Ainsi, la même terre, la même métairie, devra nourrir trois familles. Le propriétaire, le fermier et le métayer. Ce métayer qui viendra à Noël, à Pâques et à la Saint-Jean, porter son fermage en nature dans la maison du fermier. Voilà pourquoi toutes les maisons bourgeoises de Saint-Antonin sont surmontées de ces vastes greniers en récolte construits au XVIIe siècle. Nous vivions ici alors en économie rurale. Mais le négoce représente quand même une activité importante dans l'économie. Les Pénavers, les Cassins, les Raffis, les Portails, les Guérals, les Prat-Bernoux, les Alauzés, les Bécailles sont des négociants dont l'activité s'étend sur des marchandises très variées, nous l'avons vu tout à l'heure, et qui se traitent dans le commerce, se traitent loin d'ici, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Nantes, jusqu'en Hollande, qui est le débouché important pour l'exportation des prunes sèches et du safran, essentiellement. Voilà pourquoi la prise de la Hollande par Louis XIV a été si bien accueillie ici, et que le feu de joie ordonné par l'intendant à cette occasion a été allumé avec enthousiasme par les marchands saint-antoninois.
À propos de la guerre de Hollande, la caille, la tourterelle et la jolie perdrix qui chantent pour les filles qui n'ont pas de mari, vous avez reconnu la chanson ? Elle date de cette époque-là, où les fiancés étaient faits prisonniers en Hollande. Et c'est une chanson de marche pour les soldats. Pour moi ne chante guère, car Jeanne est un joli. Pour moi ne chante guère, car Jeanne est un joli. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Et bravo pour la Hollande qui nous apportera la richesse. À cette classe privilégiée appartiennent bien sûr les chanoines du chapitre collégial. Et voilà pourquoi la division en ces fameuses trois classes, noblesse, clergé, bourgeoisie et tiers-état, me paraît très artificielle pour une société comme la nôtre. Ces chanoines sont tous fils de nobles ou fils de bourgeois, ou de riches marchands. Ils ajoutent à la fortune personnelle qui leur vient de leur famille les revenus considérables que procure la ferme des dîmes des 10 paroisses dont ils sont de toute ancienneté depuis le XIe siècle décimateurs. Tous les membres donc de cette classe privilégiée acceptent sans aucune peine la même mise de l'intendant et du roi sur l'administration communale, comme nous l'avons dit. Ils en tirent tranquillité, profit et honneur. Et pour se maintenir en grâce et bien en cours, ils sont prêts à sacrifier leur idéal et à renier leur foi de calviniste, tel le marquis de Villette, dont l'abjuration lui vaudra le poste envié de capitaine châtelain et gouverneur de Saint-Antonin. Il pourra alors construire là-haut, sur la colline de Peyrègue, son château de Villette, qui date du XVIIe siècle, tandis que sa mère, Madame de Paglierolles, émigrera en Angleterre, elle. Noble, en voici un autre, noble de Beyne, seigneur de Roire, ancien chef protestant lors du siège, à qui l'intendant offrira le poste de premier consul. Ainsi, Abel Berry, ce bourgeois, qui deviendra, grâce à son abjuration, le premier maire de Saint-Antonin. Entre parenthèses, il habitait la pharmacie de la place du Bioc. Et enfin, nous y revenons, Prat Bernou, notre notaire bien connu, qui abjure sa religion en 1629, après la grande peur qu'il a eue pendant la peste, et qui écrit sur la page de garde de son registre ce quatrain pompier, mais c'est une manie chez lui. France, je te salue, ô mère, je désire que comme nous vivons, très tous sous un bon roi, qu'ainsi par un bonheur, en bref, nous puissions dire que nous n'avons qu'un Dieu, qu'une foi et qu'un roi. Amen.